Silenzio si gira! Silenzio!
Camera!
Motore!
Motore! Partito!
Check!
Odissea 14702 prima!
Avanti!
Azione!
Les podcasts de la Cinémathèque.
En octobre 2022, à l'occasion de la rétrospective intégrale Akira Kurosawa qu'organisait la Cinémathèque française, discussion avec Charles Tesson à l'issue de la projection du film Sanjuro. Charles Tesson est spécialiste du cinéma d'Akira Kurosawa et du cinéma asiatique. Il est maître de conférences en histoire d'esthétique du cinéma. Il a été rédacteur en chef des Cahiers du cinéma et délégué général de la Semaine de la critique à Cannes. Rencontre avec Charles Tesson, animé par Bernard Benolier.
Bonsoir, bonsoir et bienvenue à la Cinémathèque, bienvenue à Charles Tesson, bienvenue à vous tous et à vous toutes pour ce début de rétrospective. On est ravis d'accueillir Charles Tesson pour dire bien sûr quelques mots en introduction du film, mais aussi et surtout pour parler avec lui du film que vous allez voir, Sanjuro, après la projection. Pour plusieurs raisons, parce que c'est un film assez sidérant, parce que Charles a écrit, entre autres, un ouvrage sur Kurosawa dans une collection à l'époque qui avait une visée didactique, et son ouvrage est un modèle de concision et de précision. Et c'est à ce titre-là, entre autres, que j'ai eu envie qu'il vienne nous parler de Kurosawa, cinéaste qu'il connaît évidemment très bien. Charles Tesson a écrit des ouvrages un peu indispensables sur Louis Buñuel, Satyajit Ray. Il a été rédacteur en chef des Cahiers du cinéma de 1998 à 2003 et délégué général de la Semaine de la critique à Cannes de 2011 à 2021. Voilà pour les états de service. Mais surtout, voilà, je voulais que Charles vienne parce qu'il a une grande connaissance du Japon, du cinéma japonais et évidemment de Kurosawa. Donc voilà, tout de suite, je lui cède la parole et on se retrouve après en sa compagnie. J'aurai un dialogue avec Charles et puis bien sûr ensuite vos questions, vos réactions, vos interprétations du film. Charles, si tu veux dire quelques mots de ce film qui est donc en quelque sorte, entre guillemets, la suite du film d'hier soir, mais qui peut se voir celui-ci sans avoir vu le précédent.
Tout à fait, merci. Donc vous allez faire une cour au Sawa, hein, c'est un mauvais jeu de mots, mais il est de Jean-Claude Biette. Voilà. le Sanjuro que vous allez voir est une commande du studio de la Toho. Parce que Yojimbo est un succès phénoménal. Et Kurosawa a ressorti, non pas du placard, mais un scénario qu'il a écrit avant Yojimbo. Donc Sanjuro a été écrit avant Yojimbo, mais il était pensé comme film tout seul, adapté d'un roman qui s'appelle, d'après Shugoro Yamamoto, hein, qui s'appelle intéressant Jour de paix au pluriel. Et c'est aussi l'écrivain qu'il a adapté pour Barberousse et Dodescaden. C'est un écrivain que Kurosawa devait beaucoup aimer, puisqu'il a aussi écrit deux scénarios qu'il n'a pas réalisés, mais qui ont été tournés par la suite par Konishikawa et par Kei Kumai. Voilà. Le film, du coup, comme Kurosawa a écrit une deuxième version pour penser à la suite de Yojimbo, son héros dans la première version du scénario était un héros faible physiquement, pas bon en sable, mais très intelligent. C'est-à-dire qu'au lieu de se servir de son corps ou de son sable, il se servait de sa tête. C'est ça l'idée de Sanjuro. Donc, il ne voulait pas le tourner. Il a confié à un cinéaste qui s'appelle Hiromichi Horikawa, mais la Toho a refusé. Donc, du coup, il a accepté de le faire en faisant évoluer son personnage, que vous verrez dans le film, parce que c'est Mifune. Donc, il faut qu'il y ait quand même s'il y a un raccord d'histoire différent ou de situation, au moins un raccord sur le personnage. Une dernière chose, Kurosawa, ce film était un très gros succès public, mais Kurosawa disait c'est deux films très différents, parce que autant Yojimbo a plu aux jeunes, autant celui-ci, non pas plus aux vieux, mais aux adultes, disait-il. Mais c'était deux gros succès publics, sur deux tranches de spectateurs très différents. Dernière chose, Kurosawa a accepté de faire ce film, parce que c'était très différent. Il a eu une mauvaise expérience qui l'avait traumatisé, parce qu'il a fait La légende du grand judo, Tsukada Shinchiro. On l'a obligé de faire un remake de ça, une suite. En 1945, le numéro 2, qui détestait. Et déjà, il pestait sur les studios qui veulent refaire des films qui ont fait du succès. Il trouvait ça stupide et insupportable. Il trouvait que son deuxième de 1945, c'était du réchauffé, ou une expression que j'aime bien, un dépôt de thé. Celui-ci n'est pas un dépôt de thé. Voilà. Sinon, dernière chose, il pleut aujourd'hui, donc c'est un temps très Kurosawa, vous avez vu la bande-annonce, mais ce film est exceptionnel puisqu'il n'y pleut pas. Voilà. Bonne projection.
C'était Sanjuro, un film de 1962. Et ce qui est vrai, c'est que, bon, là, j'en parlais avec Charles Tesson avant la projection, la tentation est grande devant un film comme celui-ci de s'en emparer tout de suite. Il y a tellement de dimensions ou de niveaux ou de situations qu'on a tout de suite envie de parler du film. Et je disais aussi à Charles que peut-être ça vaudrait la peine de revenir d'abord un peu sur Kurosawa lui-même, sur son trajet, puisque ici on est en 1962, c'est quelqu'un qui a dû naître en 1910, et c'est son 21e long métrage. Voilà quelqu'un qui a commencé donc en 1943 et qui a fait une vingtaine de films entre 1943 et 1962. Et donc, Charles, est-ce que tu peux nous dire, j'allais dire, en quelques. Un peu. Au galop, quoi, pour reprendre une métaphore équestre qui plaît beaucoup à Kurosawa, c'est est-ce que tu pourrais peut-être brosser un peu le portrait de Kurosawa, dire qui il est, d'où il vient, un peu sa formation, et disons comme ça on rejoindra tranquillement ou au galop Sanjuro.
Ça, il n'y a pas beaucoup de chevaux, mais il y a deux scènes de chevaux dans le film. Bien, d'abord, il a raconté sa vie dans une autobiographie qui s'appelle Comme une autobiographie, donc je vous invite à vous y pencher, parce que c'est un livre remarquable. Donc, il est né en 1910 d'une famille nombreuse, ils sont sept, quatre sœurs aînées et deux frères. Son père était dans l'armée impériale, mais professeur. Il enseignait, puis il a été aussi, Kurosawa le décrit comme quelqu'un de la fois très strict sur la discipline, puis en même temps, pas du tout socialiste, contre le socialiste, mais non plus pas ultra-nationaliste. Quand il y a eu un assassinat d'un anarchiste dans les années 20, à l'ère Taisho, avant l'ère Showa. Il était outré que, d'une part, que les extrêmes droites aient assassiné un anarchiste, puis qu'il avait condamné ceux qui avaient fait une peine de 10 ans qu'il trouvait trop clémente. Donc ça, c'est la figure du père, mais qui est importante chez lui. Il y a aussi ce qu'il a fait. Il parle de l'école, il parle de plein de choses. Enfin, quand il a vu un chien coupé par un très beau gamin, il y a la scène du tremblement de terre, 23, mais j'en parlerai après. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'il a fait l'école, très variable selon les profs, avec un intérêt pour la littérature, surtout la peinture et la calligraphie. Il y avait des cours d'instruction militaire, mais pas trop. Le sabre, il en a fait, mais ce n'était pas trop son truc, mais il aimait bien quand même. Il a toujours été très fier de dire que ses parents, son père, étaient d'une lignée de samouraïs très, très ancienne, jusqu'au XIe siècle, qui venaient du nord du Japon, Hokkaido. Voilà. Donc ça, oui. Ce qui est important dans sa vie, c'est qu'il n'a pas connu sa sœur aînée qui était déjà mariée. Il a surtout eu un lien qui était le modèle, qui est son frère, Eigo, hein, qui avait 4 ans avant lui, je crois, 4 ou 5, et qui était un peu le préféré de son père en termes d'études, de réussite. Et quand il n'a d'ailleurs pas été admis, son père était très déçu. Mais c'était une référence pour Kurosawa, ce frère aîné. D'une part, parce que son père l'emmenait au cinéma jeune, Kurosawa. Il raconte qu'il l'emmenait beaucoup au cinéma. C'est un père qui était très ouvert, qui a piscine, tennis, enfin, tout ce qui était moderne. Il était vraiment un emblème, je dirais, de l'ère Taisho avant l'ère Showa, qui s'est plus refermée. Ce frère, il a ouvert à la littérature, à plein de choses, et il était benshi. Benshi, c'est-à-dire commentateur, comme dans le théâtre Bunraku de marionnettes, quelqu'un raconte. Il était benshi pour les films étrangers, ou si je me trompe, dans les films étrangers, c'était une seule voix qui faisait toutes les voix, alors que pour les films japonais, c'était plusieurs qui pouvaient faire les différentes voix. Hein. Mais il était Benchi, et Kurosawa, lui, quand il a fini ses études, il n'a pas été admis à l'école de Beaux-Arts, ça l'a beaucoup peiné, vexé en 1928. Il a été admis à l'école d'art prolétarienne, qu'il aimait, mais faute de mieux, parce que son frère et ils ne sont pas terribles, eux, et puis il était d'accord avec lui, mais comme il ne voulait pas donner raison à son frère, il est resté plus longtemps, jusqu'en 32. Mais c'est là où il a eu une vie clandestine, il a quitté la maison familiale pendant 4 ans, il disait à ses parents qu'il vivait chez son frère, ce qui n'était pas vrai, il distribuait la presse communiste qui était clandestine à l'époque, enfin, il était très engagé politiquement dans cette période-là. Ce qui l'a bouleversé, il le raconte dans sa biographie, c'est la mort, le suicide de son frère, qui était donc Benchi, qui était leader du mouvement des Benchi pour qu'il se continue, puisque vous savez que le passage au parlant s'est fait tard dans le cinéma japonais. On voyait les films américains qui étaient sonorisés. Les Benchi avaient beaucoup de pouvoir dans les studios et du coup, ils ne voulaient pas passer au parlant. Et il y a eu une menace des studios qui ont dit bah, si vous ne voulez pas passer au parlant, si le japonais ne passe pas au parlant, on va voir que les films américains, il n'y aura pas de films japonais. Donc, voilà. Et lui s'est suicidé, ça l'a énormément marqué. Il a dit d'ailleurs une phrase très belle, qu'il n'est que le tirage positif du négatif, pellicule de son frère. Quoi. Il est rentré à Tao sur concours, je crois que c'était 1500 ou 500, c'est encore plus dur que la Fémis. Hein. Il était 130 en finale et 5 admis. Donc, il a fait ses classes à la Tao, PCL 35, pendant 7 ans, mais avec tous les postes, hein, troisième assistant, deuxième, premier, réalisateur de seconde équipe, et ce qu'il raconte très bien dans son autobiographie, il a travaillé assistant de Naruse sur Avalanche, hein, qu'il admirait beaucoup. C'est là qu'il a rencontré Yoshiro Honda, qui a fait les Godzilla, qui d'ailleurs collaborait avec Kurosawa, ils étaient très amis. Mais surtout, il a appris tous les métiers, c'est ce qu'il disait, c'est-à-dire montage, post-pro, son, tout, il était partout. Et après, quand il a commencé à tourner, on lui a confié, il a écrit des scénarios pour dès 41. On lui a confié, parce que c'est comme ça le système japonais, c'est le metteur en scène, le mentor, Kachi Hiramoto, qui va voir le patron, puis il dit, il est bien, il faut lui confier un film. Donc, il a tourné. Puis après, quand il s'est marié très tôt, il a écrit beaucoup de scénarios, 45-46, il avait besoin de vivre et tout. Donc, le premier film, c'est La légende du grand judo, qui est formidable, avec un hommage avec les acteurs des années 30, Denjiro Okochi, qui est un acteur de sable des années 30, qui a été censuré parce que, après Pearl Harbor, tout ce qui était histoire d'amour était jugé pro-américain. Donc, on a sucré tout ce qui était histoire d'amour. Non, mais c'est un peu bête. Et quand il est passé à la commission de censure, un cinéaste a défendu Kurosawa, c'est Ozu. Il a dit, non, vous êtes fous, etc. Voilà, je vais faire vite. Après, Kurosawa, il y a une période très intéressante chez lui que j'aime beaucoup, c'est l'après-guerre, sous la période américaine, où il fait répondre aux dictats, disons, des Américains, qui font des films soit vers la démocratie ou qui décrit la réalité d'après-guerre. Mizoguchi l'a fait, Femme de la nuit, lui, il l'a fait très bien dans ses films. Je vous recommande Un merveilleux dimanche, qui est un très, très beau film, peu connu, et que je trouve vraiment formidable, formidable. Voyez-le absolument. Il fait partie, je dirais, des grands Kurosawa trop sous-estimés, hein, entre autres. Vous connaissez les autres, films noirs, etc., etc. Son studio de cœur, c'est la Toho. Le Toho était sauvé par les crises d'après-guerre, je pourrais en parler, sur les syndicats, sur la chasse aux communistes, la Shinto qui a été créée par les droitiers en opposition aux syndicats gauche, etc. Ça l'a affecté beaucoup. Il a quitté, il a travaillé un peu à la Shoshiku, à la Dai. C'est là où il a fait son succès, Rashomon, dont Jean-François parlait hier, qui a été connu mondialement, même si la Dai n'aimait pas son scénario, qu'il trouvait trop compliqué. Et il s'est pas bien entendu avec Masaichi Nagata, qui est le producteur, le patron de la Dai, qui était par contre un très grand ami et soutien de Mizoguchi. Il retournera à Toho avec Ikeru. Dans l'œuvre, on peut distinguer plusieurs pôles très faciles, hein, c'est arbitraire ce que je vais dire. Je dirais qu'il y a un pôle néo-réaliste humaniste, hein, qui continue jusqu'à la fin avec Madadayo, hein, des films comme ça. Je dirais qu'il y a, il y a tout le pôle, qui on va peut-être plus en parler, parce que c'est celui de l'action et du héros, hein, et de l'aventure, la valeur de l'action, le sens de l'action, le prix de l'action, etc. Et puis je dirais qu'il y a le Kurosawa peintre aussi, parce qu'il a été peintre qui s'est affirmé à travers la couleur. J'adore dans le film Mifune quand il dit la couleur, on s'en fout, la couleur, ça n'a pas d'importance. Quand on sait ce que Kurosawa fera de la couleur après, entre les camélias blanc et rouge. D'ailleurs, il voulait mettre des couleurs. Enfin, voilà. Donc, un peu pour situer ça. Les grands succès, mais le succès mondial, c'est effectivement Rashomon sur les films à costume qui ont fait que, comme on a. Il était interdit de faire des films historiques entre 45 et 50. Sous la dictature, je dirais, le contrôle des Américains, même si les Américains ont eu un rôle très progressiste dans parce qu'ils ont autorisé les syndicats, enfin, etc. Et après, il y a une chasse aux sorcières ou aux rouges après dans les studios. Donc, c'était une période très intéressante, ça. Mais La Rachaumont, qui a été un grand succès historique, il en a fait d'autres. Mais lui a toujours aimé l'alternance entre les films contemporains et les films historiques. Donc, cette Samouraï était un grand succès. Vivre de sa peur était un échec total. Il a fait La Forteresse cachée et après, il a décidé, on vient un peu plus là, à créer sa propre production dans la taupe, un peu ce que fera Clint Eastwood avec Malpasso au sein de Warner, c'est-à-dire créer sa propre structure à l'intérieur des studios, ce qui lui a permis de tourner des films polars, enfin que j'aime beaucoup, Les Salauds ne dorment jamais, qu'il a fait, et ces films-là, et ce qui nous amène ici à ces films-là. J'ai oublié de parler d'essentiel, c'est Mifune, bien sûr, hein, qui est arrivé, c'est Hideko Takamine qui a dit à Kurosawa, il y a un petit jeune qui font des auditions. Il y a un petit jeune qui est pas mal, personne n'en veut.
On est en 46. Là.
46, ouais, c'est ça. Et Hideko Takamine a dit à Kurosawa, il est allé le voir. Et d'ailleurs, il en parle dans ses mémoires, sa autobiographie. À l'époque, c'est ce qui ne plaisait pas trop, y compris à Kurosawa et à Naruse. C'est-à-dire que les syndicats, c'était bien, parce que c'est ce que les Américains ont imposé au studio. Et en même temps, les syndicats avaient le droit, les techniciens, les membres du syndicat avaient le droit à la ligne éditoriale des studios, c'est-à-dire choisir les scénarios et tout. Et même Kurosawa et Naruse, même si vous ne voulez pas critiquer ça, trouvaient que c'était un peu too much. Et du coup, Mifune a failli être recalé, mais c'est Kajiro Yamamoto, qui était le patron à l'époque, enfin, qui s'occupait de ça, qui l'a repêché. Et il a débuté donc avec l'ange Yves, mais c'est son troisième rôle, il avait fait deux autres.
C'est ça, c'est que... Quand tu distingues des périodes ou des possibilités de découpage, en quelque sorte, dans la filmographie, il y a vraiment, dans la filmographie de Kurosawa, un avant et un après Toshiro Mifune. Toshiro Mifune apparaît dans L'Ange ivre, 1948, donc c'est le film dont on discutera avec Nicolas Saada, à la fin du mois d'octobre. Et puis, donc, il travaille, entre autres, avec Kurosawa jusqu'à 1965, Barberousse. Après il passera, comme tu l'as dit, à la couleur, à partir du moment, d'une certaine manière, où Mifune n'est plus dans son cinéma, le cinéma de Kurosawa va changer. Mais entre autres, ils ont fait 16 films ensemble, ce qui est colossal, et ce qui dit, entre 48 et 65, l'importance cruciale de Mifune. Et cette importance, on la sent évidemment dans Yojimbo, le film d'hier, et cette suite, comme tu l'as décrite en introduction, de Sanjuro. Qu'est-ce qu'on peut dire pour commencer à approcher, disons, à la fois par, disons peut-être par le jeu de Mifune, la singularité et la saveur du personnage de Sanjuro ? Comment ce personnage, dans deux films, finalement, fait notre bonheur ?
Kurosawa l'a rencontré pour la première fois, au début, il disait... lui, quand il veut faire une émotion, une action, d'habitude, il faut 6 mètres de pellicule. Lui, 1 mètre suffit, quoi, sur la vivacité, la vitesse, l'énergie. Ce qui est intéressant de voir, mais ça, c'est presque un sujet dans le sujet, c'est de voir comment il a utilisé Mifune à la fois dans ses personnages et dans son jeu. Ce qui est intéressant dans la période, je dirais la période, ces deux films-là, c'est que ces personnages reposent sur des tics de personnages. Quoi. C'est-à-dire le roulement d'épaule, je crois qu'il fait ça 200 fois dans le film. On pourrait dire une fois, ça suffit. Mais
tu veux dire caresser son menton. Je dis ça pour l'enregistrement.
Oui, pardon. Oui, là où je n'ai pas pensé. Il y a l'image, il faut le son, il faut mimer. Oui. Donc il le fait je ne sais combien de fois. Il y a toujours sa main, sa manche là, puis il se gratte sous son kimono, hein, tout le temps. Donc c'est des tics de jeu. Et il joue avec ces tics de jeu. Il y a des moments, par contre, où il y a des moments où il sourit, où tout d'un coup, il y a presque une réaction presque documentaire à une situation de jeu. En même temps, il est souvent en amorce de plan ou en fond de plan. Il n'est jamais au centre, Mifune. Donc son jeu, là, effectivement, extrêmement intéressant. Après, c'est ce qui est très intéressant chez Kurosawa, enfin, surtout dans ces films-là, c'est que son jeu est simple et ses personnages sont complexes. Quoi. Donc voilà, donc, je trouve ça pas mal comme principe.
Et donc, si on continue sur le personnage, effectivement, tu dis il est complexe. Comment on pourrait qu'est-ce qui se joue dans le film, bon, qu'on peut décrire ensemble, mais qui est cette complexité-là de Sanjuro, à savoir un rapport. Il a un rapport contrarié à l'action.
Oui. Ça, d'ailleurs, il y a une vraie évolution, et je pense les deux films. Parce que plusieurs fils à tirer avec ce que tu dis. D'une part, un, le rapport maître-disciple qui a été posé dès la légende du grand judo, avec plutôt le maître sage et l'élève un peu fou qu'il faut domestiquer et dompter, jusqu'à son inverse, si je puis dire, qui est Barberousse, c'est le maître fou et les élèves qui n'arrivent pas à suivre la folie du maître, quoi. Ce qui est intéressant dans la période Yojimbo Sanjuro, on retrouve ce personnage. Comment prendre ça ? C'est-à-dire qu'il y a, il y a toujours eu chez Kurosawa, dans ses films d'aventure, il a dit qu'il aime beaucoup les films d'aventure et la notion de héros. Hein, il le dit d'ailleurs, le mot est prononcé dans le film plusieurs fois, quelques fois. C'est-à-dire que c'est à la fois le sens de l'aventure, la valeur de l'action, le prix de l'action, etc. Il ajoute dans Yojimbo Sanjuro une autre notion, qu'il n'y a pas d'action sans mise en scène de l'action. Et ici, une dimension supplémentaire qui vraiment fait partie du jeu de ces deux films, qui va effectivement très loin, parce que tout est mis en scène, le palanquin, vous avez vu tous ces éléments-là. Et ça, là-dessus, je trouve ça intéressant. Sur le personnage, alors là, sur le personnage, il y a toujours une question qui est très... On a toujours parlé de Ford pour Kurosawa, ce qui est vrai, sur les paysages, sur les chevaux, les ciels. OK, il y a une certaine... Voilà, on peut dire ça. Surtout dans ses films Ran, plus épique de la fin. Mais je trouve qu'il est plutôt auxien dans ces choses, et c'est même presque Rio Bravo, quoi, sur la question de l'individu et du groupe, qui est très forte, et puis sur l'idée de comment faire alliance et faire alliance avec qui, et en quel thème faire l'alliance, c'est-à-dire, la fin du film, c'est quand même, si vous me suivez, vous me tuez, je vous tue. Donc, ce n'est pas qui même me suive par rapport au maître à l'élève, mais c'est au contraire ça. Tout comme hier, dans Yojimbo, la phrase géniale, enfin géniale non, mais quand il sauve la femme, son mari et l'enfant, qui lui remercient, ne savent pas comment le remercier, comme les petits jeunes à la fin, dont un d'ailleurs se relève et visiblement ému et touché par cette figure du maître, mais leur dit, si vous vous apitoyez, je vous tue. Hein. Donc il a un rapport, à la fois il fait alliance, tout en gardant cette distance individuelle, tout en ayant de l'avance et du retard par rapport à où là il veut être dans leur lien au groupe. Quoi. Donc à la fois il a un engagement politique par rapport à être avec ses jeunes. Quand ils disent 9, lui disent toujours 10. Il le dit, je crois, deux fois dans le film. Et après, donc, il se compte parmi le groupe. Puis, en même temps, il fait quand les autres veulent lui coller à la peau pour savoir si c'est... Il veut travailler pour Takashi Nakadai, le Muroto, pour savoir si c'est... Il y a deux clans qui sont divisés pour savoir, pour l'espionner. Enfin, ça amène des catastrophes. Donc, tout ce qui est le rapport et la mise en scène est formidable sur la façon dont il est dans le groupe. On ne le voit pas, il est là. Et cette question de l'individu et du groupe, pour des raisons politiques, de positionnement. Et Kurosawa, là-dessus, disait une chose très juste, en quoi Yojimbo lui plaisait énormément. Parce qu'il disait chez lui, c'est vrai que c'est une structure qu'on retrouve dans les 7 samouraïs, c'est-à-dire de faire une alliance le temps du film et du récit, avec un groupe contre un autre. C'est-à-dire, dans les 7 samouraïs, ceux qui ont perdu dans les guerres civiles, les renards, parce qu'à cause des défaites de leur seigneur, de leur daimyo, sont errants. Et tout d'un coup, il y a des villageois qui sont attaqués par d'autres renards. Donc, c'est des frères d'armes, sauf que les autres pillent les villages et les autres veulent aider les paysans. Ce qui est contraire à la loi, je dirais, du renard. Hein, parce que je dirais que c'est le premier film de samouraï dit, enfin, de gauche, si on veut parler autrement. Et il y a une alliance qui dure le temps du film. Même si après, on dit que c'est les paysans qui ont gagné, enfin, etc., etc. Il y a toujours des comptes dans l'action au final de ça. Et là, pareil, ce qu'il disait de Yojimbo l'intéressait, c'est que là, l'idée formidable pour lui, qui le plaisait beaucoup, c'est qu'il y avait deux clans, mais ils étaient tous pourris, mauvais, et que tout d'un coup, on met quelqu'un au milieu, et qu'est-ce que ça donne ? Où il va aller ? Il va faire le yo-yo ? Ou est-ce qu'il va aller laisser s'entretuer ? Ou mettre en scène leur propre autodestruction, destruction commune ? Donc ça, intéressait. Là, avec celui-là, il retourne, je dirais, à un schéma plus classique, qui est celui de... Il se retrouve là avec eux, dans cette cabane au début, et puis il se dit, ça y est, je vais faire un bout de chemin avec vous, par conviction politique, je vais vous aider, puis après, je reprends mon chemin. Ça ne veut pas dire que si vous ne me suivez pas, vous ne m'aimez pas, mais gardez mon enseignement en vous, sans pouvoir s'agglutiner à moi. Donc cette question du groupe, de l'individu, de l'aventure, du collectif dans l'aventure, des positionnements politiques et tout, c'est des choses chez Kurosawa qui sont toujours très, très rigoureuses. Quoi.
C'est ça, parce que dans le rapport étonnant du film du maître aux élèves, hein, sans arrêt, il les rabroue, alors qu'on a compris, on sent qu'il... C'est pas qu'il épouse leur cause, mais il leur reconnaît une intégrité. mais il les considère comme ce qu'ils sont, c'est-à-dire des gamins naïfs et impétueux. Et à la fin, quand il leur dit « si vous me suivez, je vous tue », d'une certaine manière, c'est sa manière à lui de lui dire que l'enseignement est terminé. C'est l'exercice a dû être profitable. D'ailleurs, on voit que dans le groupe des neuf, le neveu, par exemple, est celui qui commence à, Il commence à réfléchir comme Mifune, enfin comme Sanjuro. Donc, d'une certaine manière, cet abrupte de la fin, c'est une manière aussi de dire, voilà, le film se termine, mais surtout l'enseignement est terminé. Et comme tu dis, il n'a accepté de les suivre, lui qui est un errant, que le temps de, en quelque sorte, de cet enseignement. Et effectivement, tu faisais une allusion à Clint Eastwood, via la structure de production Malpasso. Mais quand on voit la fin du film et le personnage qui s'en va au loin, on pense évidemment, entre autres, par exemple, à Pale Rider, où une jeune femme appelle Eastwood et lui s'éloigne. Voilà. Donc, c'est toujours des personnages qui arrivent de quelque part, vont ailleurs, un peu comme Chaplin aussi. Enfin, il y a cette idée de traverser un moment de la vie des gens et aussi de leur apprendre quelque chose ou de les surprendre. Mais Sanjuro, ce personnage, dans la manière dont il... Parce que finalement, c'est un stratège autant qu'un bretteur ou un formidable sabreur. C'est quelqu'un qui pense tout le temps, qui réfléchit. Enfin, il pense aussi vite qu'il dégaine, finalement. Et est-ce qu'on pourrait dire que Sanjuro, dans cette manière qu'il a de penser l'action, c'est un peu aussi un autoportrait de Kurosawa, en ce sens que, d'une certaine manière, c'est un film qui se fait là sous nos yeux.
Pardon. Oui, tout à fait. C'est presque une séance de brainstorming en scénario, d'écriture de scénario. Et puis, il faut faire ça et ça, mais ils vont faire ça, donc il faut mieux faire ça. Et ils ne s'arrêtent pas de toutes les scènes sont tricotées et détricotées.
Ça, il y a situation, mais d'abord, il y a analyse de situation.
Et puis, s'ils font ça, c'est qu'ils vont penser faire ça. Donc, essayer de penser avec 3-4 scènes d'avance. Essayer d'avoir 4 scènes d'avance, on dit au cinéma, parfois, on a un plan d'avance sur le film, donc ce n'est pas bon pour lui. Mais là, c'est essayer d'avoir plusieurs scènes d'avance sur le plan des autres. Et c'est que des commentaires de scénarios, etc. Il y a même des petites erreurs prises dans le décor, parce que le temple n'a pas d'étage, donc ils mettent plus de temps à s'en rendre compte pour le rendez-vous. Mais tout est comme ça, et j'adore la façon dont tout est fait, et comment lui écoute des propositions de scénarios des jeunes, les réfute. Et il n'arrête pas de dormir, d'ailleurs. Enfin, il y a un temps où il s'affole. J'adore aussi, parce qu'il y a l'idée aussi très... on a toujours besoin d'un vieux près de chez soi. Enfin, c'est un peu l'idée de Kurosawa, quand même, dans le contexte des années 60, où arrive Oshima, la nouvelle génération, les films Broariens de Yoshida, Nuit et brouillard, les jeunes qui se révoltent contre l'Amérique et tout. Donc, cette génération contestataire dans les années 60 arrive. Je pense que Kurosawa la voit arriver. C'est de quel message elle est porteuse. Parce que je trouve que c'est un film très contemporain hein, par rapport à la contestation d'un pouvoir corrompu par toute une nouvelle génération. C'est un film très contemporain. C'est-à-dire qu'il décrit autrement le message des cinéastes de Oshima, la nouvelle vague, surtout dans Nuit et brouillard du Japon, même si c'est différent, mais sur les jeunes et la révolte par rapport à ça. Et on voit bien que, contrairement au discours de Oshima et autres qui disaient... vous, vos parents, vous qui avez fait de votre pays, qui avez engagé dans la guerre, là, on sent que Kurosawa, c'est un autre discours. C'est par rapport aux jeunes et par rapport à la politique, nous, on a du métier. Je vais vous apprendre un peu des choses et je vais vous aider. Je vais être avec vous. Donc ça, il y a un petit côté comme ça qui fait qu'on peut rire des jeunes, mais ils sont en même temps très sympathiques et de bonne volonté. Et ça, j'aime beaucoup le message politique hein, de ça, parce qu'il a fait aussi un autre film contemporain juste avant, qui est Les salauds dorment en paix, qui est aussi un film sur la corruption du pouvoir. Film noir un peu à la Coppola, si je puis dire, mais sans, enfin, avant Coppola, ou, etc., qui est très intéressant aussi. Donc on voit bien que ces questions politiques sur la corruption, le pouvoir, la contestation, la rébellion, quand l'autre dit ils sont 10, en fait non, ils sont 100 000, etc., et comment lui joue de tout ça, c'est une chose qui est très importante, enfin, je trouve, dans ce film-là.
Mais ce qui est vrai,
je suis parti sur autre chose.
Non, mais ce qui est vrai, pour revenir et continuer un peu sur cette idée, c'est qu'on a rarement... le sentiment de voir une histoire se dérouler et s'écrire en même temps qu'elle se déroule. C'est comme si c'était le film qui écrivait le scénario, et au fur et à mesure des situations, comme tu l'as dit, ça évolue, ça change, ça bifurque. On est entre, tu dis dans ton livre, entre le jeu vidéo avec différents niveaux ou entre le jeu d'échecs où chacun à la fois prévoit le coup de l'autre, fait un coup en prévision de ce coup à venir et l'autre lui-même de son côté réagit et le montage n'hésite pas à comme ça passer d'un camp à l'autre. Mais effectivement, on a l'impression qu'on assiste à voir ce film à la manière dont Kurosawa écrivait ses scénarios, puisque lui-même disait qu'il ne les écrivait jamais seul, mais qu'il avait besoin d'un autre ou de quelques autres pour, en quelque sorte, être dans une sorte de ping-pong ou de relance, et que, d'une certaine manière, c'est comme s'ils avaient fait un film sur la manière dont ils travaillent, quoi, ouais, pour écrire une histoire.
C'est vrai que Yojimbo, c'est un film sur la mise en scène, et là, c'est un film sur le scénario. Les deux, si on veut les regarder autrement. Et là-dessus, le film est vertigineux, parce que comment eux voient l'histoire, comment lui reprend leur histoire, et puis tout d'un coup, la analyse ou interprète autrement, puis en fonction de ça, imagine des situations, ou des plans, comme l'histoire du palanquin, qui est le leur, ils y vont, ils croient que, et puis eux-mêmes se trompent, ils croient que c'est des gens qui vont les attaquer, mais en fait, non, ils protègent les corrompus. Enfin bon, il y a toujours des paliers de lecture, qui est toujours, enfin, chez Kurosawa, il y a toujours la voir et agir. Puis maintenant, entre les deux, là, celui-ci, il y a toute la scénarisation du voir avant d'agir, quoi. Alors que les autres, il n'y a pas toujours cette couche tierce.
C'est pour ça que tu dis dans le livre, d'une certaine manière, avant d'avoir vu ce film, il est impossible à résumer. Tellement de volte-face, de virevolte et de changements, de bifurcations et d'intersections, que d'écrire le film, le raconter, est un exercice effectivement très compliqué. Alors que quand on le voit, effectivement, on les suit, littéralement. Mais l'autre chose, enfin, une des autres choses que je trouve et qui va avec tout ça, c'est que on a dit c'est un film d'action, mais c'est un film, on pourrait dire, d'action philosophique, parce que l'action est contrariée par, on pourrait dire, certaines situations visuelles et le discours de la femme du chambellan. La femme du chambellan qui, tout d'un coup, personnage génial, qui arrive avec son sourire permanent et qui voit de la beauté en toute chose et qui renvoie au Ronin sa violence constitutive. Et c'est la seule qui le, je dirais, qui déroute Sanjuro, ou en tout cas qui le fait à son tour réfléchir à lui-même, principalement.
Oui, donc, quand je revois le film en le voyant avec vous, c'est vrai que je dis, mais finalement, le maître-disciple, le vrai maître, c'est elle par rapport à Sanjuro. Mais c'est d'ailleurs un des rares personnages féminins qui ait ce statut-là, si je puis dire, dans les films de Kurosawa, dans la mesure où, quand il lui dit vous auriez pu éviter de les tuer, pourquoi tant de violence, etc., il y a toujours un discours comme ça. Et on sent que lui, ça le perturbe. Après, il met sur le compte des autres, parce que comme ils ont espionné les deux, là, ça crée toute la cacophonie. Donc, il fait semblant de les battre pour qu'ils soient prisonniers. Après, il tue les autres, faisant croire que c'est les rebelles qui les ont tués. Puis après, il se met prisonnier. Enfin bon, vous voyez, c'est compliqué de raconter tout. Et voilà. Mais c'est vrai qu'elle, on sent qu'elle a, elle a. La preuve, c'est que lui ressort les mots de la femme du chambellan, hein, à la fin, en lui disant. On est un sabre nu, mais il faut rester dans votre fourreau, c'est-à-dire arrêter de les écorcher vifs qui dégainaient, tuaient et tranchaient, pour, non pas pour rien, mais vite. Et du coup, on sent que c'est elle qui a la voix et son message, je dirais même de paix, enfin, poétique, etc. Les fleurs, c'est beau et tout. Mais tout d'un coup, ce personnage-là est celui qui est un peu presque l'ascendant sur Sanjuro en termes de maître et de disciple. Quoi. Donc il y a deux strates, en fait. Quoi. Il y a lui et les jeunes, les neufs. Et puis il y a lui et la femme du chambellan, que je trouve un très beau personnage.
Et on pourrait, comme ça, je vais vous donner la parole, mais ajouter des couches, hein, la couche comique, qui fait partie de cette incroyable...
J'adore le prisonnier dans son placard, il est génial.
Le prisonnier dans son placard est quand même une invention assez merveilleuse, et il entre et il sort à souhait. Ça, et puis il y a une dimension qui va avec la dimension philosophique et le personnage de la femme du chambellan, qui est une dimension poétique. C'est-à-dire que tout d'un coup, le film s'ouvre à autre chose, même si l'action est formidablement, j'allais dire, filmée de manière presque poétique par moment. Le coup des camélias, ça c'est génial. On a dit, et c'est vrai, que c'est un film en noir et blanc, mais que Kurosawa, dans son souci de minutie et en même temps de clarté, a demandé à ce que, comme le film était en noir et blanc, les camélias, certains des camélias soient peints en noir pour qu'en noir et blanc, ils paraissent rouges. Et que ensuite, bon, il y a tout le jeu comique sur le rouge et le blanc, mais l'idée de peindre les camélias est une idée merveilleuse. Ça dit à quel point aussi Kurosawa a été attentif non seulement aux moindres détails, mais à quel point il pensait toujours aux effets sur le spectateur. Et l'autre chose qui me vient en parlant de ça, c'est l'usage du cinémascope, c'est-à-dire la manière dont il a à gérer entre 5 et 10 personnages par plan. Il n'y a, pour ainsi dire, pas un seul champ contre champ dans le film.
Non. Ça,
tout passe par l'usage de l'écran large, du scope, et de la disposition des personnages dans le plan. On peut imaginer sans doute que pour arriver à une telle précision, il devait avoir des marques au sol, les jeunes neufs. Là, parce que le moment où il est allongé sur la charrette, oui, filmé en contre-plongée, et que tous sont disposés dans les interstices de la charrette pendant que lui parle, et pour que tous tiennent dans le plan, tu te dis, ils avaient des emplacements absolument prévus, précis, et on imagine que Kurosawa dessinait, comment il s'y prenait pour composer de tels plans. Quoi.
La beauté des plans, quand ils sont tous les neufs, les visages, les postures, ou même lui qui apparaît dans l'intervalle entre des personnages par moment, enfin, etc. C'est extrêmement beau. Même quand l'espace est vide, quand Makoto, comment il s'appelle, c'est ça, oui. Enfin, je ne sais plus comment il s'appelle, Tatsuya Nakadai. Tatsuya Nakadai, quand il est dans le...
Moruto.
Quand il est en train de surveiller dehors, et puis il les appelle, puis il voit qu'ils sont ivres, il y a un bout de cadre et l'autre, etc. Enfin, c'est cette manière de jouer du vide et du plein et du placement des personnages. C'est vrai qu'il a horreur du champ contre champ, Kurosawa. Il s'en sert quasiment pas. Et soit il obstrue les plans, ou alors toutes les scènes avec les petits carrés où il y a Tatsuya Nakadai qui apparaît dans le décor et tout, c'est extrêmement beau en termes d'aplat, de remplissage et de composition. Là-dessus, c'est effectivement très, très beau. C'est un film aussi les jeunes, ils sont, j'aime beaucoup. Je crois que c'est un film où on attend beaucoup d'actions et elles n'ont pas lieu. C'est-à-dire, quand les palanquins sortent, on se dit on va avoir un gros truc, et en fait, il ne se passe pas grand-chose. Le temple, on ne le voit pas. Enfin, les chevaux, on les voit juste arriver à la fin. La façon dont ils se rendent à la fin est assez étonnante, parce qu'ils arrivent. Takashi Shimura, lui, il rend son sable et tout, donc il n'y a pas d'action. Les sables servent à couper des fleurs, autant qu'il n'y a que Mifune qui en fait un autre usage. Mais j'adore quand les sables servent à couper les fleurs, etc. Donc je trouve ça vraiment là-dessus, sur la composition plastique est très très belle. Parce qu'après, il se sert de la profondeur de champ, c'est toujours pour voir. C'est-à-dire que la profondeur de champ chez Kurosawa, c'est quelqu'un qui voit en embuscade quand ils sont devant le palais où est enfermée et prisonnière la femme du chambellan et sa fille. Ils sont de dos là, en amorce, il y a le poisson, etc. Donc ça, ou quand il y a le palanquin, ils sont en amorce. Donc ça, il aime bien les personnages qui sont toujours en train de voir en amorce, en profondeur de champ. Et très souvent, ce qu'ils ont à voir est souvent un leurre ou un piège ou un appât. Kurosawa aime bien montrer ce type de mise en scène par rapport au regard et puis à l'objet qui est à voir. Plus là, il ajoute la couche scénario là-dedans. Donc là-dessus, le film il est vraiment très, très beau. La musique de Masaru Sato est plus sage que dans celle de Jingbo, à part le moment de jazz, le moment
quand les samouraïs se réjouissent entre eux.
Ils font trop de bruit, et puis il y a l'autre qui rentre dans sa...
Ouais. Mais là, il y a un petit moment
où il danse, sa fonction de prisonnier.
Et là, la musique est quasiment une musique de jazz.
Oui, une musique de jazz.
Peut-être, alors, bon, et je vous promets, après, si je m'arrête, une dernière chose, mais parce que c'est important aussi, et ça a beaucoup marqué sur le moment, et ça a beaucoup ensuite marqué le cinéma, c'est le dernier combat. Le dernier combat, peut-être le décrire, et ce qui s'y passe. Et toi, tu dis dans ton livre, c'est tout d'un coup l'intrusion du manga dans le film de sabre japonais.
Non, c'est par rapport au geyser de sang.
Par rapport au geyser de sang.
Par rapport au geyser de sang. Parce que, je ne sais pas s'il y en a eu avant, je ne sais pas. Mais c'est ce qui a fait, dans ce combat, l'éruption du geyser de sang a marqué. La technique du sabré est tranché, il y a un nom japonais pour ça, je ne sais plus, mais ça existe, ça fait partie de la technique, surtout quand on sait qu'on dégaine et que le sabre est à portée d'adversaire, parce qu'il y a une question de distance. Je sais que dans les traités de Musashi Miyamoto, il y a un terme, je crois qu'il appelle ça le coup à une seule cadence, un truc comme ça. Hayo, je ne sais plus comment il s'appelle. Enfin bon. Oui, c'est ça, voilà, il y a un terme exact, merci. Et puis il appelle ça dégainer une seule cadence, c'est-à-dire qu'il y a la contre-cadence et là c'est un seul. Enfin bon, passons. La scène finale, elle est magnifique à plusieurs titres. Il y a une idée, il y a plusieurs choses. D'une part, c'est tourné dans un décor de terre, de volcan, qu'on reconnaît spécifique, je dirais, à Kurosawa, parce que c'est quand il était assistant réalisateur sur un film en 1937, qu'il était près du Fort Muji, moi, à Kone. Il est tombé amoureux de cet endroit. Il a toujours été tourné ces films-là depuis ce moment-là. C'est ce qu'il raconte dans sa autobiographie. Deuxième chose, j'aime bien, c'est le côté lui qui fuit, le groupe qui veut le suivre, les neuf, hein, et le combat. Le combat, il est très... ce qui est intéressant, j'en parlais aussi d'ailleurs dans le bouquin des cahiers, c'est que de la même année, il y a Kenji Misumi dans son film La Dai, le Zatoichi, où il y a aussi un combat comme ça sur un pont, hein, avec une idée qui traverse aussi l'idée de Kurosawa. Ici, c'est que, au nom de ton honneur, tu veux effectivement, parce qu'il a travaillé pour lui en trahissant, donc il veut laver cet affront, mais il dit, un de nous deux va mourir, donc il y a cette idée-là qu'on se supprime nous-mêmes. Kurosawa, ça ne nous apprend rien, est obsédé par la capacité du Japon à s'autodétruire à l'échelle nationale, à l'échelle, même un film comme celui de Yojimbo, ces guerres civiles, c'est-à-dire le Japon et les clans, comment le Japon peut s'autodétruire de lui-même, et quelque chose qui est... C'est vraiment le plus grand vertige du cinéma de Kurosawa. Et même dans Yojimbo, je dévie un peu, puisque ça se passe à la fin de l'ère Edo, il montre que les Ronin ne travaillent plus pour des clans, des seigneurs, des daimyo, mais pour des commerces, donc c'est la montée des grands groupes industriels. Et là, il arrive, par sa mise en scène, à faire en sorte qu'ils s'entretuent. Donc la capacité du Japon et des clans au niveau du duel et au niveau du collectif à s'entre-déchirer, à se détruire, c'est vraiment le plus grand vertige obsessionnel de cinéma de Kurosawa qui a donné forme. Je reviens là. Donc là, c'est plus à l'échelle individuelle. Ce qui est intéressant dans Yojimbo, fin de la parenthèse, c'est que c'est la fin de l'ère Edo, c'est là où il y a la montée en puissance des commerçants qui voudront la fin de l'époque féodale, shogunat, bakufu, et qui feront les grandes aibatsu qui emmèneront le Japon dans la guerre, etc. Là, ce qui est intéressant, c'est que Kurosawa est optimiste. Il montre qu'un ronin seul peut bousiller le capitalisme de l'empire d'Asoie et du saké, alors que dans la réalité, ça sera l'inverse. Les samouraïs qui vont disparaître, et c'est le monde du commerce qui va s'implanter. Donc ça, c'est juste une petite parenthèse politique, mais qui est intéressante par rapport au ronin. Là, oui, mais il y a cette idée très très belle de l'affrontement. Et là, il est filmé comme beaucoup de films. Les scènes de combat sont très belles chez Kurosawa, mais chez Misumi, c'est encore plus beau, je trouve, parce qu'ils sont comme deux statues. Il y a toujours ce moment-là, il y a le geyser comme indice. Mais dans les films, on ne sait pas qui est mort. Il y a un moment où ils sont deux statues comme pétrifiées. Il y en a un qui tombe et l'autre qui est vivant. Enfin, ça fait partie, je dirais, des codes. Ce qui est très beau, c'est la façon dont c'est filmé. Ils sont deux profils. Il y a le groupe. Il y a un moment où lui se retourne vers le groupe pour leur dire magnifique. Et non, il n'y a pas à applaudir, on a tué quelqu'un. Et le plan le plus fort, bien sûr, c'est le plan de la terre qu'on voit, et le sang qui coule et qui nourrit la terre. Là, tu te dis, OK, c'est le sang qui nourrit la terre. Donc là, ce plan est très, très fort et n'est pas du tout nécessaire par rapport à l'esthétique du combat, mais je pense que Kurosawa tient beaucoup. Puis après, il y a lui qui s'écarte du groupe, lui qui leur colle, voilà, comme un effet chewing-gum, quoi. C'est là où il lui dit sabre nu, fin, etc., etc., par rapport au message que lui a dit la femme du chambellan. Et là-dessus, la chorégraphie, là sur la transmission du sabre nu, non, et la transmission d'autres choses, oui. Enfin, donc là-dessus, la scène en termes de mise en scène, elle est remarquable. Et ce qui est beau, c'est toujours chez Kurosawa, c'est la dialectique très simple de l'arrêt et du mouvement, quoi. Ça s'arrête, il y a le mouvement, l'arrêt, la mort, le fantôme, le gravataire et l'énergie folle, les extrêmes, quoi. Donc ça là-dessus, ça, c'est chapeau. Enfin, en termes de mise en scène, il n'y a pas mieux,
c'est, hein. Ça, le cinéma de Kurosawa est sans arrêt traversé par on pourrait dire presque un feuilleté de différentes vitesses. Il y a des accélérations, il y a des arrêts, il y a des reprises. On sent que d'une certaine manière, le film pense à son montage dès le tournage, que les plans ont plusieurs vitesses. C'est ce qui fait aussi, j'allais dire, que spectaculairement, enfin, du point de vue de l'œil, le spectateur suit le film de Kurosawa comme un ballet. Là, littéralement, les neuf, c'est un corps de ballet. Hein. Ils se déplacent par petites masses. Il lui dit, arrêtez de me suivre comme des poussins. Mais la manière qu'ils ont de se déplacer par partie ou ensemble, fait partie du grand plaisir visuel du film. Hein. On sent que ça a été là aussi pensé, presque dessiné, et que ces mouvements-là sont des mouvements chorégraphiés. Est-ce que vous avez je n'ai pas demandé au début qui découvrait le film, mais si vous avez des questions, des remarques, des informations, n'hésitez pas.
Oui, bonsoir. Il est question de la nature. On retrouve des images qu'on voit dans d'autres films de Kurosawa, comme La forteresse cachée, avec de l'eau, la rivière. On entend le bruit d'un oiseau, on a aussi la végétation, des arbres, des feuilles. C'est beaucoup d'images qui sont récurrentes. Dans Rashomon, on a aussi cet aspect-là.
Oui, tout à fait. Oui. Le chant d'oiseau, qui est un peu un chant de rossignol, c'est un son très codé. C'est-à-dire que si vous regardez les films de sabre, dès qu'il y a un combat au sabre, on entend toujours ce petit chant d'oiseau. C'est toujours le même. Je soupçonne même la bande, le même son va servir dans tous les films, mais on l'entend souvent. C'est vrai que là, sur la nature, il est plus... Il y a la rivière et le bruit de la rivière, enfin de cours d'eau qui apporte beaucoup de douceur dans le film, ça c'est vrai. Mais après, celui-ci a moins d'extérieur que d'autres, parce que chez Kurosawa, il y a les films de forêt ou la forêt, enfin de Rashomon, de rêve, etc. Et il y a toujours une nature, enfin c'est un peu les films de Kurosawa, c'est un peu comme le, non pas le Japon lui-même, parce que c'est un peu bête, mais d'un côté, ce qu'on appelle la nature sauvage, volcan, typhon. Bourrasque, tempête, boue. Et ça, chez Kurosawa, ça, je ne parlais de pluie auparavant, c'est vraiment le plus grand signal du dérèglement climatique, hein, avant que ça soit d'actualité, si je puis dire. Et puis de l'autre, une nature domestiquée, qui est le jardin japonais, où tout est arrêté, mis en place et mis en scène. Et ce contraste-là, on le retrouve souvent, et c'est vrai que la nature passe souvent dans ces extrêmes-là. Mais là, il n'y a pas le brouillard, il n'y a pas la montagne, parce que ça, c'est dans le château de l'araignée, c'est différent. Mais il y a des traitements très différents de la nature. Dans Rhapsody en août, il y a l'ouragan, la pluie, là où la vieille femme voit de ses yeux la bombe et tout. Enfin, il y a toujours des moments, mais les moments de chaos, parce qu'il y a un chaos, je dirais, lié à la nature, et puis il y a un chaos lié au Japon, ce que j'appelais les guerres des clans, la capacité du pays à s'entre-déchirer à l'échelle individuelle et collective, et la nature entre en scène dans tout ça.
Deuxième très court. Un point à noter aussi, c'est beaucoup d'humour dans ce film, ce qui n'est pas toujours le cas chez Kurosawa. Il y a des films au sein desquels il n'y a aucun humour, et ce qui choque parfois certains spectateurs. Le Château de l'Araignée, je sais que j'avais suivi une discussion dans un ciné-club et ça avait surpris la dureté du ton. Là, non, ça reste quand même très, souvent très drôle.
C'est vrai que c'est une période, parce que dans le Château de l'Araignée, il y a aussi des éléments un peu burlesques, avec les deux petits qui veulent leur fagot, l'or et tout, qui se promènent. Dans la forteresse cachée, oui. Il y a des éléments un peu de burlesque avec les deux qui se promènent et qui veulent ramener leur or caché dans les lingots d'or cachés dans les fagots de bois. Mais c'est vrai que c'est surtout dans Yojimbo et dans ce film-là qu'il y a au contraire énormément de burlesque, de grotesque, y compris avec les jeunes ici et les personnages. Et on rit beaucoup, et je trouve que l'humour lui va bien à Kurosawa, parce qu'il y a un peu de touche d'humour aussi, mais dans un autre registre, dans Dodé Skaden quand même. Ça dépend des sketchs et des épisodes, mais sinon, non, enfin, pas vraiment. Et en même temps, ce ton-là lui va très bien, je trouve. Parce que ici, enfin, la scène, j'adore la scène du foin, là, avec l'autre qui évoque ses souvenirs érotiques avec Yori. Puis l'autre qui trouve ça pas mal, la mère, et tout. Et puis du coup, Mifune, soit c'est pas son truc, ou soit il respecte le code de sa place, hein, par rapport à ça. J'aime bien la scène où il y a les trois femmes qui apportent le repas, puis dégagé. Okay.
Et ce qui est magnifique, quand les trois femmes amènent le repas, et ouais, là, tu vois à quel point tout est pensé, codé, soit dans le Japon, soit dans Kurosawa, c'est que quand il dit aux trois femmes de partir parce qu'elles le gênent pour soi-disant déjeuner, la première se lève pour ouvrir la porte, et c'est la première qui ouvre la porte qui sortira la dernière. C'est-à-dire que elle ouvre la porte non pas pour sortir, mais pour faire sortir les deux autres, puis ensuite elle sortir. C'est-à-dire que le moindre geste est d'un raffinement et d'une à la fois codifié et prémédité. Ça aussi, ça fait ces détails font spectacle. En tout cas, pour un œil occidental.
Parce que lui, il passe son temps à se gratter. Enfin, à la fin, y a l'uniforme qu'il ne pourra jamais endosser, enfin le costume, etc. Et le rôle, enfin bon, ça lui va bien. Et je trouve Mifune très bien dans ce registre-là.
Et ce qui est vrai, c'est qu'en tout cas, l'humour va très très bien à Kurosawa, qu'il l'a très peu, enfin peu pratiqué à l'échelle de l'œuvre, mais sans doute pour la raison que tu dis, c'est-à-dire que fondamentalement, c'est un pessimiste. C'est quelqu'un qui est travaillé par l'énergie, l'action. Mais fondamentalement, la vision qui est la sienne, quand tu dis l'autodestruction des êtres et du collectif, fondamentalement, il fait des films sombres, il fait des films tragiques, il adapte Shakespeare et pas Molière. Ouais. Donc il est plutôt, effectivement, du côté d'une vision apocalyptique du monde, et que presque là, on pourrait dire, c'est une sorte de divertissement ou de rêve ou de distraction. Et quant à la présence de la nature, Charles le disait, il y a moins d'extérieur que d'ordinaire dans un film de Kurosawa, mais aussi parce que celui-ci est beaucoup tourné en studio, et sans doute, même s'il y a l'arbre imposant là au tout début, quand ils arrivent près de la maison assiégée, peut-être aussi parce que le succès de Yojimbo avait été tel qu'il y avait une urgence à produire et sortir celui-ci dans la foulée, et que donc les extérieurs, et puis alors Kurosawa en extérieur,
c'est une grosse logistique.
Et que si le ciel lui convient pas, si la lumière n'est pas la bonne, tout d'un coup le film entre dans d'autres délais qui n'étaient certainement pas ceux de la Toho, qui voulait exploiter avec Sanjuro le succès de Yojimbo.
Merci. Pour revenir sur le point que vous évoquiez, qui est le fait que ça succède à Yojimbo, et c'est vraiment très intéressant de les voir tous les deux d'affilée, moi j'ai été vraiment frappé à quel point c'était comme un correctif, comme s'il était, avec le succès de Yojimbo, il avait pris conscience à quel point ce torrent de violence avait suscité un plaisir incroyable chez les spectateurs, qui adorait voir de la violence, et que là, il faisait un film qui, justement, même s'il y a de la violence, à chaque fois, elle est extrêmement peu visuelle, elle est réduite au minimum, et la morale à la fin, c'est effectivement une morale contre la violence, du sable qui doit rester dans son fourreau, et lorsque les jeunes, à la fin, dans la dernière scène, veulent aussi se mettre à tuer tout le monde, il leur sort « Tu ne sais pas de quoi tu parles ». Et on a vraiment l'impression... Ça donne le sentiment que, après tout, il regrettait d'avoir fait Yojimbo.
En tout cas, est-ce que c'est comme un correctif ? Une sorte de façon de... Oui, c'est ça que vous dites. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, il s'est rendu compte de quelque chose qui lui aurait échappé avec le premier, et le deuxième serait une façon de mettre les points sur les i ou le...
Oui, bah, c'était un peu un... Finalement, Yojimbo était vraiment un exemple presque d'un certain cynisme dans le pessimisme. Et là, il voulait revenir à quelque chose d'humaniste.
Oui, mais il y a de l'humanisme aussi dans Yojimbo. C'est-à-dire quand la femme qui est capturée, qui libère et qui dit à son mari « Je vous libère » tout en me mettant en scène, en faisant croire que c'est les autres qui l'ont enlevé, etc. Il y a de l'humanisme sélectif, Yojimbo. Et pareil, à la fin, quand l'aubergiste il a quitté les lieux, hein, avec la scène du cimetière, dans le tonneau, enfin, etc., où j'adore comment il est metteur en scène de l'action, puis après, quand elle a lieu, il veut voir devant ses yeux, quoi. C'est un peu... Le côté, ce que Bazin appelait l'œil de Néron, quoi, contempler ce qu'on a, la destruction comme elle est belle, quoi, enfin, le côté comme ça. Et à la fin, quand il apprend que l'aubergiste, celui qui était son confident, est prisonnier, là, il revient, il tue tout le monde pour venger. Donc, il a aussi le sens de l'amitié, des certaines valeurs qui sont effectivement sélectives par rapport à ces gens-là, c'est-à-dire la femme exploitée, prostituée, et le mari, l'enfant, c'est-à-dire allez vivre votre vie de famille, mais dégarpissez, ne me remerciez pas. Et puis le copain, l'ami, quoi. Donc ça, et par contre, les autres, où, ceux qui sont les gangs, les clans, tout, là où il y a beaucoup de haine par rapport à ce monde-là, aucune pitié, au contraire. Bouffez-vous, détruisez-vous, je serai le plus heureux, quoi. Mais après, quand, il y a de l'ironie, c'est différent, parce qu'à la fin, il dit, quand il dit le bourg, enfin dans la traduction, le village est en paix. Enfin, il est en paix parce que tout le monde est mort, quoi. Donc c'est une paix de cimetière, elle n'est pas terrible, sa paix. Alors que dans Sanjuro, je pense qu'il a, si il voulait adapter ce roman qui s'appelait d'ailleurs Jour de paix, au pluriel, hein, le roman qui est adapté, qu'il voulait adapter sans penser à Yojimbo, je pense que je vois ce qu'il a gardé du roman, je vois ce qu'il a ajouté du modèle de Yojimbo, c'est-à-dire au début quand il en tue, puis le moment où il est suivi par les trois qui veulent savoir, pour espionner Mifune, pour savoir s'il est effectivement avec eux ou contre eux, ça provoque des remous, puis il leur dit d'ailleurs, je vis tout à cause de vous, ok, ça y est, mais sinon, le film attend des scènes d'action qui sont toujours un peu déçues, c'est-à-dire les scènes de palanquin et tout, on attend un gros truc, et le premier qui est en première ligne, ils veulent y aller, n'y allez pas. Vous voyez, bande d'abrutis. Pareil, la fin, quand ils vont au temple, on s'attend à des grands déploiements de trucs, on ne voit rien. Puis quand ils arrivent, ben, il ne se passe rien, ils se rendent tout de suite, quoi. Donc il y a une manière quand même de décevoir,
de désamorcer l'action.
Parce que c'est plus une pensée de l'action, son exécution, son scénario. Ouais. Mais la fin est très forte quand même.
Et en même temps, le combat final, tout en étant ultra dans son Sanjuro, en étant ultra spectaculaire et minimal. C'est un geste.
Il a été beaucoup imité après. C'est vraiment une scène qu'on a revue avec des variantes. Et le meilleur pour filmer une scène de combat, je trouve, en termes de mise en scène et d'inventivité, c'est Misumi, je trouve, comme cinéaste. Mais ça a été une référence, cette idée-là. Mais après, voilà, ce que j'aime beaucoup, c'est ce qu'il dit, hein, ne me suivez pas, magnifique, il n'y a pas à applaudir. Comme si c'était une manière de dire aux spectateurs aussi. Quoi.
Enfin, ça, c'est vraiment la morale, oui. Ça rejoint ce que disait monsieur. Enfin, c'est vraiment la morale du film et le point de vue, effectivement, plus que sur l'action, sur la violence. Quoi.
Bonsoir, merci beaucoup pour vos commentaires et analyses. C'est vraiment à partir de votre échange, hein, il y a des choses qui me viennent. Il y a eu l'expression de Charles Tesson, la pensée de l'action. Je voudrais peut-être revenir sur cette expression-là. On pourrait dire, enfin moi je pourrais le dire, ce film c'est à la fois un film réflexif, je pense que ça on est tous d'accord, à la limite sur le cinéma lui-même, de ce que Kurosawa fait lui-même du cinéma. Et en exagérant un peu, mais à peine, un film aussi onaniste. Mais ça, je peux le mettre de côté, c'est pas grave. Dans la dimension réflexive, moi, ce qui m'intéresse, c'est encore une fois une de vos incises, c'est sur la notion maître-élève. Il y a donc Mifune qui est un peu le maître de ces neuf, je vais dire rapidement, garçons, et il y a cette femme qui est un peu maître ou maîtresse, si vous voulez, de Mifune. Mais ce n'est pas le même enseignement. Enfin, comme je pourrais le lire, ou comme on pourrait l'identifier et le lire, Mifune, finalement, c'est... Enfin, on pourrait aller un peu vite, hein, un peu à la hache. Ce serait un peu un professeur de paradoxe. Alors que cette dame, c'est justement quelqu'un qui, juste sur la parole... en expression familière, on dirait le casse moralement. Donc c'est vraiment un enseignement de vie, mais juste sur la violence de la parole face à la violence de l'action. Enfin, je ne sais pas si vous avez un avis sur ça. Pardon.
En tout cas, moi, ce que je retiens de ce que vous dites, c'est que oui, d'une certaine manière, elle est le maître du maître. C'est-à-dire qu'elle est à un stade du développement spirituel qui est plus avancé que Sanjuro. Sanjuro, son drame, c'est qu'il a conscience de la spiritualité, mais comme il est un sabre nu, il a du mal à y accéder. Il est dans un stade intermédiaire. Il va peut-être devenir un sage dans la vie suivante. Mais là, il est bloqué. Il est dans une contradiction. Elle, c'est la paix de l'âme, c'est le calme sur terre. Enfin, elle est tout sourire, tout l'enchante. Même quand elle dit soyez moins violent, elle le dit avec le sourire. Elle, c'est la béatitude en fait. elle est dans la béatitude.
Même le chambellan à la fin, quand il parle du bilan, il regrette que l'autre se soit fait harakiri, là. Et lui dit, les autres, les autres auraient dû se rendre et puis on les aurait mis en pré-retraite. Enfin,
absolument, comme ça, et on comprend, à ce moment-là à quel point c'est un beau couple, à quel point ils sont faits pour être ensemble, puisque quand ce chambellan qu'on n'a pas vu de tout le film, mais dont on a entendu parler tout le film, et qui revient et qui fait sa blague sur sa tête de cheval et qui fait rire tout le monde et qui en même temps a cette distance ironique à son propre égard et qu'elle sourit, et on comprend que en fait ils en sont au même stade de développement spirituel l'un l'autre, et que ce qui mine littéralement Sanjuro et qui le renvoie à la route et à son destin, c'est qu'il n'en est pas là, tout en étant assez loin lui-même, puisque c'est un homme particulièrement intelligent et spirituel. Mais il y a encore un niveau. Merci beaucoup, Charles. Merci beaucoup à vous.
C'était les podcasts de la Cinémathèque française.